Anne Verdaguet présente le journal des Amériques et d'Haïti. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Le coronavirus aux États-Unis, pays toujours le plus infecté au monde, et dans certains États, dans le sud, la population fait la queue pour être testée. C'est notamment le cas en Arizona, où l'on entendra le reportage de notre envoyé spécial Eric De Salve auprès de la population latino. On va vous parler de cette convention républicaine qui devait avoir lieu aujourd'hui au Texas, mais qui se fera de manière virtuelle. 6000 personnes doivent y participer. Thomas Harms à Houston nous en dira plus sur le vote évangéliste, enjeu très important pour Donald Trump. Avec Franz Duval du Nouvelliste en Haïti, comme tous les jeudis, on va parler des gros problèmes de fourniture d'électricité aujourd'hui. Un gros souci pour de nombreux commerçants et habitants haïtiens qui subissent régulièrement les blackouts, ces interruptions de courant qui peuvent durer jusqu'à 10 jours. Le nombre de personnes infectées par le Covid-19 aux États-Unis dépasse à présent les 3,5 millions et ce record est battu tous les jours. Dernière en date, 67 000 nouveaux cas recensés lors de ces dernières 24 heures, notamment dans les États du Sud. C'est en Alabama que l'on a comptabilisé le plus grand nombre de décès, 40 morts. En Oklahoma, le gouverneur a été testé positif, mais continue de clamer l'inutilité du port du masque. Parmi les autres États les plus touchés, l'Arizona ou la communauté latine est surreprésenté parmi les cas positifs. Reportage de notre envoyé spécial Eric De Salve dans un centre de test gratuit à Phoenix.
Détendez-vous, ce n'est pas très agréable, mais ça ne fait pas mal. Derrière sa visière, son masque et sa combinaison de protection, une infirmière enfonce un écouvillon dans la narine de Patricia venue se faire tester au Covid-19.
Oh mon Dieu, ça fait mal. J'ai été exposée par quelqu'un et mieux vaut être prudent.
Nous sommes sur le parking d'un lycée transformé depuis 3 semaines en drive-in de dépistage géant et gratuit par des associations du sud de Phoenix. C'est la zone la plus pauvre et la plus infectée de la ville. Signe de l'urgence, il est à peine 8h du matin et déjà une file d'attente immense de voitures s'allonge sur plusieurs kilomètres. Dans son pick-up, Raoul, 34 ans, patiente depuis 2 heures. Cet ouvrier du bâtiment mexicain-américain a besoin d'un test Covid négatif pour reprendre le travail.
Un collègue a été testé positif au travail, donc on m'a demandé de faire le test avant de revenir. C'est pour la sécurité de tout le monde. On fait juste attention, on veut limiter la propagation et on a tous peur pour nos familles.
Depuis 1 mois et demi, le coronavirus est hors de contrôle en Arizona et les Latinos comme Raoul et Patricia sont les plus touchés. À Phoenix, ils représentent 40% de la population, mais 50% des infections. Eric De Salve, Phoenix, RFI.
Bonjour Elliot Brachet.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la revue de presse des Amériques avec vous, on reste aux États-Unis. La presse revient sur ce changement soudain à la tête de l'équipe de campagne de Donald Trump. À 4 mois des élections, le président sortant se sépare de son directeur de campagne.
Oui Anne, Brad Parscale sort par la petite porte. Il était pourtant l'une des têtes pensantes de la campagne victorieuse de Donald Trump en 2016, rappelle le Washington Post. Brad Parscale était le gourou numérique de Donald Trump, selon The Hill. C'est lui qui était derrière la stratégie offensive de Trump sur les réseaux sociaux, mais comme le constate le site Politico, Donald Trump, en chute libre dans les sondages, cherche à enrayer la dégringolade et donner un nouveau souffle à sa campagne. Brad Parscale sera remplacé par son adjoint Bill Stepien, un vétéran de la politique au sein des Républicains.
Autre sujet à la une de la presse, les réseaux sociaux justement et le piratage des comptes Twitter de personnalités influentes aux États-Unis.
Oui, c'est une arnaque qui fait grand bruit. The Hill raconte que mercredi sur Twitter, Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk ou encore Joe Biden proposaient aux internautes de leur envoyer des dollars en échange de bitcoins, une crypto-monnaie. C'était bien une escroquerie, leur compte avait été piraté par des hackers. Le New York Times s'inquiète une nouvelle fois des failles béantes dans la sécurité informatique de Twitter. Avant que les messages ne soient effacés, quelques minutes plus tard, les cyberpirates ont tout de même eu le temps de récolter plus de 100 000 dollars, indique le quotidien new-yorkais.
Aux États-Unis, toujours la guerre contre le gang salvadorien MS-13 continue. 13 chefs de bande ont été arrêtés dans le Nevada. Un coup de filet très suivi par la presse d'Amérique centrale.
Les autorités américaines sortent le grand jeu face à l'une des pires organisations criminelles de la région, commente le quotidien guatémaltèque Prensa Libre. Les membres du gang MS-13 qui ont été arrêtés risquent la perpétuité, voire la peine de mort. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait déclaré la guerre à la Mara Salvatrucha, alias MS-13. La justice américaine poursuit d'ailleurs l'un des chefs de ce gang pour acte terroriste et c'est une première, souligne le Washington Post.
En République dominicaine, l'état d'urgence sanitaire a de nouveau été décrété 15 jours après avoir été levé.
C'est un rétropédalage nécessaire, titre Diario Libre, une décision inévitable alors que le coronavirus se répand de plus en plus vite dans le pays, poursuit le journal. Pour Listine Diario, ces 45 nouveaux jours d'état d'urgence sont un coup dur pour l'économie dominicaine qui commençait tout juste à repartir. Dans les colonnes de la Información, un éditorialiste s'inquiète d'une autre épidémie, la corruption. Deux semaines après les élections générales en République dominicaine, qui ont vu une alternance politique avec la victoire du Parti révolutionnaire moderne et de Luis Abinader, de nombreuses irrégularités et fraudes électorales ont été passées sous silence au niveau local, s'indigne cet éditorialiste.
Et puis au Pérou, Elliott, le président de la République change de gouvernement en pleine crise pandémique à un remaniement très commenté dans la presse locale.
L'avocat Pedro Cateriano avait déjà dirigé un gouvernement péruvien sous le mandat de l'ex-président Ollanta Humala, rappelle El Comercio. Cette fois, il revient à la tête d'une nouvelle équipe avec un défi énorme, selon le journal, enrayer la progression du coronavirus au Pérou. Pour sa part, le journal Pérou 21 souligne que cette instabilité politique dans le pays ne favorise pas une réponse efficace à la crise. C'est la troisième ministre de la Santé nommée depuis le début de l'épidémie. Un autre défi pour ce gouvernement, selon le quotidien Correo, sera de préparer le terrain aux élections législatives prévues en avril prochain.
Merci Elliott Brachet pour cette revue de presse des Amériques.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Comme tous les jeudis, on retrouve Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste en Haïti. Bonjour Franz.
Bonjour.
Avec vous aujourd'hui, on va parler d'électricité. C'est un gros problème en Haïti et c'est à la une de votre journal. Vous écrivez que la grande région métropolitaine de Port-au-Prince est passée en une année de 6-8 heures d'électricité par jour à 6-8 heures d'électricité par semaine. Pourtant, accroître les capacités de production du réseau, c'était une promesse du président Jovenel Moïse.
C'était l'une des grandes promesses du président Moïse. Il avait promis l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur tout le pays. Il avait même promis de faire tout ça en 24 mois. Ça fait longtemps que les 24 mois sont écoulés. La capacité de production n'a pas augmenté en Haïti. Et c'est que, depuis quelques jours, pour plusieurs raisons, la distribution d'énergie électrique est devenue de plus en plus problématique. En Haïti, on appelle ça le blackout. Le blackout, c'est l'inverse de l'électricité. La principale unité de production, c'est une usine hydroélectrique, c'est l'usine hydroélectrique de Pélic qui se trouve dans le centre d'Haïti. Les turbines ont été réparées par une firme allemande. Malheureusement, les réparations n'ont pas tenu. Moins d'un an après les réparations majeures, les turbines sont retombées en panne. La centrale hydroélectrique ne peut pas produire l'électricité. Les centrales thermiques, ces derniers jours, sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de diesel et surtout parce qu'aussi un mauvais mazout a été utilisé et cela a cassé les moteurs. Tout est en réparation pour le moment. Le ministre des Travaux publics, qui est responsable du secteur de l'énergie, dénonce un sabotage du côté des employés de l'électricité d'Haïti, l'entreprise qui fournit l'électricité, entreprise publique. Et les employés, eux, dénoncent l'incurie d'État qui ne peut pas assurer l'entretien des équipements, qui ne peut pas fournir non plus du combustible de bonne qualité.
C'est dans ce contexte que l'État haïtien va dépenser des millions de dollars empruntés à Taïwan pour installer une centrale solaire et une centrale au gaz naturel. Alors, qu'est-ce que cela pose comme problème ?
Le problème de base, c'est que la production a toujours existé, mais la commercialisation de l'électricité a toujours été difficile en Haïti. Et c'est devenu de plus en plus difficile. Ces dernières années, moins de 30% de la production est facturée à la clientèle et un pourcentage encore plus faible est récupéré. Les gens perdent très, très, très peu d'électricité en Haïti. L'entreprise qui fournit l'énergie doit être subventionnée à tour de bras. C'est des millions et des millions et des centaines de millions de dollars qui sont dépensés chaque année pour subventionner la consommation d'énergie électrique des habitants, particulièrement de la grande région métropolitaine de Port-au-Prince, parce que le reste du pays est très mal loti en électricité. Le problème de base, c'est que l'État va dépenser pour avoir de nouvelles capacités de production, mais en termes de commercialisation, en termes de rentrée d'argent pour l'entreprise pour pouvoir rendre l'électricité pérenne, ce sera encore un casse-tête, ce sera encore difficile parce que les gens se sont installés dans une utilisation gratuite de l'électricité et ils ne paient pas, et ça, le modèle économique ne tient pas.
Merci à vous, Franz Duval, du Nouvelliste. Et on reste en Haïti, où les cas de contamination diminuent, selon les autorités. Mais l'épidémie de coronavirus est toujours bien présente. Ce jeudi, la région Île-de-France envoie des masques, des surblouses, des tests PCR et sérologiques sur place. Anne-Louise Mésadieu, conseillère régionale d'Île-de-France et originaire d'Haïti, évoque un lot d'équipements sanitaires estimé à plus de 200 000 euros. Elle répond aux questions de Marie Normand.
Les destinataires sont surtout des hôpitaux tels que Zormi La Santé. J'ai aussi pensé à l'hôpital général, l'hôpital Chancerel, parce que nous savons que ces hôpitaux sont dans un besoin considérable, hein, parce que avant même que la Covid s'installe, on savait que les hôpitaux en Haïti, certains hôpitaux étaient vraiment complètement démunis. Et l'hôpital Chancerel, il se trouve que j'ai pris naissance dans cet hôpital, et quand je regarde les images qui me parviennent d'Haïti, bon, on ne peut pas ne pas être sensible et touché à ça. Le matériel part via le quai d'Orsay, la cellule de crise du quai d'Orsay, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi du matériel envoyé par la France de manière générale. Il y a un avion qui est affrété, un avion cargo, et l'envoi sera au comité sectoriel qui a été mis en place par le ministère de la Santé en Haïti, qui est géré par le docteur Pape. Les personnels de santé ont déjà été prévenus, donc ils auront le matériel.
On sait que, pour l'instant, en tout cas, le pays est relativement épargné par la pandémie, si bien que les écoles et universités vont bientôt rouvrir le 10 août. Les services religieux ont également repris le 12 juillet dernier. Est-ce que cette distribution, elle s'est pas faite un peu tard ?
Je ne pense pas qu'elle soit faite un peu tard, et à ce jour, nous n'avons pas de vaccin. Et ce qu'il faut savoir aussi, en Haïti, on n'avait pas énormément de tests. Donc, c'est vrai que les chiffres ne sont pas aussi alarmants, mais beaucoup de gens en Haïti n'ont pas pu être testés. Les aéroports sont ouverts, nul n'est à l'abri. On sait que le virus voyage. Le matériel servira toujours. Mieux vaut, si c'est pas pour prévenir la Covid, mais au moins pour permettre à la population haïtienne et aux hôpitaux d'être équipés, parce que les conditions sanitaires ne sont pas ce qu'elles devraient être.
Anne-Louise Mésadieu, conseillère régionale d'Île-de-France, au micro de Marie Normand. Et ce jeudi, une convention républicaine devait se tenir au Texas. La justice a ordonné qu'elle soit virtuelle. La convention aura donc lieu en ligne pour les quelques 6000 participants. Un des enjeux de la présidentielle de novembre concerne le vote de ces évangéliques. Depuis 4 ans, Donald Trump soigne cette frange religieuse. Un dossier signé Thomas Arms au Texas.
Parmi les soutiens inconditionnels de Donald Trump, on trouve ce commentateur régulier sur Fox News. Il s'appelle Robert Jeffress et il est pasteur dans la méga-église évangélique First Baptist de Dallas.
Le président le plus résistant, le plus courageux et le plus respectueux de la foi dans l'histoire de l'Amérique, le président Donald Trump. Président Trump, nous vous aimons.
Alors que près de 60% de la population américaine désapprouve l'action de Donald Trump, 72% d'évangéliques blancs sont derrière lui. Car selon le journaliste texan Michael Mooney, les évangéliques se sentent persécutés depuis des années.
Il y a une perception générale que les chrétiens d'aujourd'hui, même les évangéliques, ont été attaqués avant Donald Trump. Ils ont été attaqués par la culture moderne, par les médias modernes, par les politiciens libéraux, et ils considèrent donc Donald Trump comme un défenseur et un héros de leur cause. Je pense qu'ils sont probablement à l'extrémité du spectre qui sera le plus enclin à croire et à défendre Donald Trump contre n'importe quelle allégation. Mais même Robert Jeffress lui-même a clairement indiqué qu'il ne défendait pas le comportement du président en ce qui concerne l'infidélité dans son mariage, sa relation avec une star du porno ou le fait qu'il ait été filmé utilisant un langage incroyablement vulgaire et parlant d'agression contre les femmes.
Un sondage à Pâques montrait que seulement 15% des chrétiens blancs évangéliques pensent que les termes « moralement honnêtes » décrivent très bien Donald Trump. Pourtant, cela ne contredit pas leur soutien, le pasteur Robert Jeffress.
Donald Trump continue de bénéficier du soutien des évangélistes. Il n'approuve pas nécessairement son mode de vie. Ce qu'ils disent, c'est qu'il s'agit d'un choix binaire entre un candidat, Donald Trump, qui est pro-vie, pro-liberté religieuse, pro-conservateur à la Cour suprême, et un autre candidat qui a un point de vue opposé sur toutes ces questions.
John Fee est aussi un évangélique, mais il est également un historien, critique vis-à-vis de ses co-religionnaires supporters de Trump et auteur d'un ouvrage sur le sujet. Il explique la position de la majorité des évangéliques blancs.
Tant que Donald Trump continuera à tenir ses promesses sur les questions de l'avortement, des nominations à la Cour fédérale, de la liberté religieuse, du sort d'Israël, il aura le soutien des évangélistes et ceux-ci refuseront de le critiquer sur son comportement. Ou bien ils refuseront de dire quoi que ce soit de négatif sur lui de peur que cela n'empêche sa réélection.
Et même la gestion du coronavirus aux États-Unis n'a que peu d'influence sur cet électorat. Michael Mooney.
Ils l'ont défendu et ont cru en lui à chaque instant. Ils ont généralement défendu sa position lorsqu'il ne voulait pas prendre cette affaire au sérieux ou lorsqu'il a fait preuve d'un certain mépris au début et qu'il a protégé le marché boursier. Ils l'ont ensuite défendu lorsqu'il a changé d'avis et qu'il a commencé à prendre la chose au sérieux. Quand Donald Trump dit qu'il pensait que c'était une pandémie avant que quelqu'un n'utilise le mot pandémie, il y a beaucoup de gens, surtout dans la communauté évangélique, qui croient exactement comme lui. Je pense que la chose la plus surprenante est de voir combien de personnes pensent que Donald Trump a fait ce qu'il fallait à chaque fois, même quand il se contredit lui-même.
Quoi qu'il dise ou fasse, le président américain peut compter sur ces chrétiens blancs ultra-conservateurs, constate John Fee.
Donald Trump a été mis ici par Dieu pour nous guider dans cette épreuve. Nous voulons donc écouter ce qu'il nous dit parce qu'il est un agent de Dieu. Il y a une sorte de confiance aveugle en Trump.
Mais tous les chrétiens ne sont pas de cet avis. Si l'on regarde du côté de la population non blanche, 83% des protestants noirs désapprouvent l'action de Donald Trump, comme 74% des catholiques latinos. Thomas Arms, Houston, RFI.
Le journal des Outre-mer, à présent présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
En Guyane, un nouveau type de test est en vente depuis hier dans les pharmacies du département.
Oui, un test qui s'appelle le TROD, T-O-T-R-O-D, test rapide orientation diagnostique. Il ne permet pas de savoir si on est infecté au moment où on le fait, mais de savoir si on a été infecté dans les derniers mois par le Covid-19. Écoutez les explications de Marc Lédy, c'est le président de l'Ordre des pharmaciens de Guyane.
Ce que ça va montrer, c'est que le patient, il a été en contact avec ce virus et il a développé des anticorps. J'ai pas les quantitatifs exacts, mais normalement, il y a une grande campagne de distribution pour tous les pharmaciens d'officine, de façon à ce qu'ils puissent avoir à disposition de quoi dépister des patients régulièrement chaque jour, et de façon à pouvoir faire ce qu'on appelle une orientation diagnostique, puisque ce sont des TROD, et pouvoir orienter le patient en disant « oui, vous avez été en contact 15 jours avant avec le virus », et vous avez la possibilité ou de reconsulter pour pouvoir voir le suivi. Et pour certains patients asymptomatiques qui ont eu une histoire de fièvre ou d'autres signes, ils pourront eux aussi avoir cette orientation diagnostique.
La Guadeloupe maintenant avec un tout autre sujet. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe qui a diligenté une enquête, un sondage en fait, sur la manière dont les Guadeloupéens appréhendent le secteur du tourisme au moment où celui-ci commence tout juste à se relever de la crise du Covid-19, autrement dit de 3 mois d'inactivité. Priscilla Room.
Exit l'image du Guadeloupéen bourru et revêche aux activités de tourisme. S'il y a bien une chose que ce premier volet de l'étude Calisat révèle, c'est que les Guadeloupéens ont bien compris le potentiel économique du secteur et ont une petite idée du modèle à mettre en œuvre. D'abord, ils veulent élargir la cible, voire plus loin que les simples frontières européennes, pour séduire une clientèle plus internationale. Ensuite, ils estiment qu'il faut mieux vendre le pays Guadeloupe, sortir de l'image de la carte postale et des plages à perte de vue, pour mettre en avant une expérience culturelle et humaine inédite. En revanche, sur le tourisme intérieur, ils sont plus nuancés. Si certains acceptent de donner un coup de pouce aux acteurs locaux en planifiant des vacances à domicile, d'autres, au contraire, n'entendent pas transiger sur le dépaysement grâce au voyage, quitte à reprogrammer des vacances l'année prochaine. La Covid-19 permet le retour du consensus. Une reprise, oui, mais loin des pièges du tourisme de masse, les Guadeloupéens priorisent la sécurité sanitaire du territoire, quitte à préférer une reprise contrôlée et progressive.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, bon après-midi à vous, Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve à 15h10, demain, heure de Paris. 9h10, heure de Port-au-Prince. Restez avec nous sur la Radio du Monde. Envie d'une boisson.